L'intimité en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle. Qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. L'intimité en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle. Qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Pour beaucoup de couples, tout commence plutôt bien concernant le désir. Je marque une distinction entre désir et sexualité parce que la sexualité des premiers temps n'est pas forcément magique pour tout le monde. Quelques maladresses peuvent s'inviter, ce qui est bien normal en ces débuts d'histoire sexuelle. En revanche, le désir, lui, est souvent bien là. Et franchement, que l'on soit un homme ou une femme, il est fréquemment de même force et de même intensité. C'est bien cela qui va dérouter les amoureux, car au fur et à mesure de la relation, ce bel équilibre va subir quelques transformations. Beaucoup de facteurs viennent contrarier le désir érotico-sexuel au sein d'un couple et le faire dévier de sa course initiale. Cette déviation est normale et nécessaire. On ne peut pas passer son temps à n'être obsédé que par une seule chose, faire l'amour avec son partenaire, car d'autres secteurs de notre vie réclament aussi notre attention. Mais parfois, cette transformation s'apparente beaucoup plus à un fléchissement qu'à toute autre chose. La sexualité, à tort ou à raison, étant considérée comme un baromètre fiable de la bonne santé du couple, ce fléchissement, quand il devient drastique, inquiète, perturbe, déstabilise certains couples jusqu'à les faire rompre. Il est responsable de souffrances individuelles qui, après avoir été bruyantes, se murent souvent dans le silence. Il provoque un ébranlement de l'estime de soi et une remise en question de sa capacité à être désirable. Je vous propose donc d'explorer ensemble quelques réflexions autour de cette question. Pourquoi, après quelque temps, le désir érotico-sexuel se transforme-t-il? Parce que les réponses et les hypothèses de réflexion sont nombreuses, j'ai choisi de diviser ce sujet en plusieurs parties. Dans cette première partie, je vous propose que nous examinions ensemble deux possibles explications à la baisse du désir au sein du couple. La première partie de la réponse n'est pas très poétique, mais elle nous rappelle que nous sommes certes des êtres façonnés par la psychologie, mais aussi par la chimie. Et la chimie a beaucoup à dire sur notre désir sexuel dans une relation débutante. La première motivation biologique du rapport sexuel, ce fut la procréation. Disséminer un peu partout son ADN, voilà le projet initial qu'a la sexualité chez tous les êtres vivants de cette planète. Et pour que notre espèce humaine soit aussi prolifique, il a fallu un peu nous motiver. Et pour cela, la biologie n'a pas lésiné sur les moyens d'encouragement. Le couple naissant est accueilli par un cocktail de bienvenue. Oui, vous avez bien entendu. Tout comme un restaurateur généreux vous offre un cocktail de bienvenue lorsque vous venez dîner dans son établissement, la biologie offre aux partenaires qui se découvrent un léger coup de pouce pour leur permettre de procréer agréablement. Le professeur Michel Reynaud nous livre la recette de ce qu'il appelle un filtre d'amour dans son livre « On ne pense qu'à ça ». Plusieurs ingrédients sont nécessaires. De la luliberine, de la testostérone, de la dopamine, des endorphines et de l'ocytocine. Vous secouez le tout et vous dégustez. En général, l'effet est explosif. Vos pensées vont se focaliser sur cette personne que vous découvrez et vous voilà soudain pris d'une insatiable envie de faire l'amour avec. La luliberine est une hormone très intéressante. Elle est impliquée dans le désir sexuel immédiat. Je n'ai donc aucun problème à vouloir sans cesse me jeter sur mon partenaire en repoussant au passage mes autres envies. C'est ainsi que les amoureux privilégient la sexualité à toute autre satisfaction telles que la nourriture, passer du temps avec leurs amis, bien dormir ou être concernés par leur activité professionnelle. Alors vous pensez bien que les chercheurs se sont vivement intéressés à cette hormone qui à elle seule résoudrait beaucoup la baisse du désir sexuel dans le couple. Cette hormone, quand on l'injecte, fonctionne bien comme prévu. Injectée sur des rats, elle a bien déclenché de vives pulsions sexuelles. Le hic, c'est que pour obtenir les effets de la luliberine, l'injection doit se faire dans notre hypothalamus, dans notre cerveau en fait. Inutile de vous dire que les candidats à des injections de ce type ne seraient pas très nombreux. Donc on oublie les injections et on s'en remet à Mère Nature, qui nous fournit gratuitement et sans douleur un cocktail efficace et efficient lors de nos premiers ébats avec une nouvelle personne. Sauf qu'au fur et à mesure que la nécessité de séduire l'autre disparaît, puisque l'attachement commence à se mettre en place, l'explosivité de ce cocktail s'amenuise. Comme au restaurant, on ne nous propose le cocktail de bienvenue qu'une fois, lors de notre arrivée et pas tout au long du repas. Et puis il y a la dopamine et la noradrénaline. Elles crèvent le plafond quand nous vivons une expérience nouvelle et excitante. Elles stimulent la sécrétion de testostérone, hormone très liée au désir sexuel. Quand l'attachement entre en action, que la nouveauté n'est plus et que l'excitation s'aplanit, la dopamine détourne un peu son attention de notre couple. Dopamine et désir fonctionnent un peu en boucle. Plus on désire et plus on sécrète de la dopamine. Et plus on sécrète de la dopamine, plus on désire. Quand on désire moins, la boucle s'aplatit. Pour faire court, car d'autres hormones comme la sérotonine et la testostérone sont également très impliquées et il y aurait beaucoup à dire, dès lors que nous nous habituons à quelqu'un, les hormones à l'œuvre dans le désir sexuel sont beaucoup moins activées. Mais c'est vrai pour toute forme de désir qui se trouve confrontée à l'habitude. C'est un point que je développerai dans la partie 2 de ce podcast et qui sera prochainement mise en ligne. La seconde réponse, bien qu'intriquée à la première, se situe sur le versant psychologique de notre histoire amoureuse. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on n'a qu'une envie, c'est qu'il tombe amoureux de nous en retour. Et pour motiver l'histoire naissante, et qu'elle ne soit pas qu'un feu de paille, on va se lancer dans une entreprise de séduction massive. La sexualité est une arme parmi d'autres dans cette opération commando, et on ne lésine pas sur les ressources. Rien ne nous empêche d'avoir envie de l'autre. Tout est relatif au regard de cet autre qui nous obsède. Pas de gêne, pas de scrupules et peu de tabous. Rien ne résiste à l'envie débridée de s'accoupler. Et puis vient le temps où l'autre est séduit, confortablement installé dans notre paysage sentimental. Peu de chances qu'il disparaisse. Alors on reporte son attention sur d'autres aspects de notre vie. Il y a un peu du Veni, Vidi, Vinci de Jules César dans nos relations amoureuses. Après une conquête, tout guerrier se repose. Notre énergie se disperse sur d'autres terrains. Il nous faut bâtir un couple solide, étayé par des projets communs, une famille par exemple. Et si par malchance, cet autre vient à nous échapper, comme c'est le cas dans les histoires de relations extra-couple, où il ou elle se resserre à nouveau et à notre insu, un cocktail de bienvenue, nous relançons sans sourciller notre expédition de séduction pour le reconquérir. C'est dans les histoires d'infidélité et de reconquête que l'on perçoit le mieux la force et la vigueur du désir sexuel renaissant. Nombreuses sont les personnes à m'avoir raconté comment leur vie sexuelle a soudainement repris force et puissance, avidité et énergie quand il s'est agi de renouer avec leur conjoint, de le reséduire à nouveau, comme pour lui dire « Préfère-moi ». Il n'est pourtant pas nécessaire de perdre l'autre pour retrouver le désir. Simplement, l'envisager comme un autre que je ne possède pas devrait beaucoup aider. Se rappeler pourquoi on l'a choisi, lui ou elle, et pas un autre. Le regarder comme un être sexuel et érotique, et pas uniquement comme un partenaire, un ami, le père ou la mère de ses enfants, même si le quotidien nous le fait oublier parfois. Garder des gestes érotiques, même petits, même fugaces, aide à maintenir vivace à notre mémoire que tout a commencé et que tout s'est construit autour d'un désir érotique. Quand on construit une maison, on commence par le sol, puis viennent les murs et le toit. Si vous conservez les murs et le toit, mais faites disparaître le sol, il y a peu de chances que vous ayez envie de rester dans votre maison. Certes, il nous faut accepter que le désir se transforme, que la tempête érotique devienne une envie réjouissante. Mais entre dévier vers un désir épanouissant et tomber dans le néant, il y a une différence. et accepter que le désir change ne signifie pas se résigner à ce qu'il disparaisse. Lors de consultations au sein de mon cabinet, j'interroge toujours les débuts érotico-sexuels d'une relation et les gens n'ont aucun mal à se rappeler avec moult détails à quoi ressemblait leur sexualité. Ils se souviennent de sa spontanéité, de sa légèreté, de son impétuosité. On se souvient de ce désir qui n'en finissait pas d'envahir tout l'espace lors des rencontres. Mais bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, on a totalement oublié les conditions érotiques qui avaient permis à ce désir d'être si persistant. Et par conditions érotiques, il s'agit bien souvent de nous. Quelle personne amoureuse étions-nous ? Séduisante ? Tolérante ? À l'écoute de l'autre ? Légère ? Compréhensive ? Drôle ? Empathique ? Valorisante ? Et quel regard portions-nous sur l'autre ? Qu'espérait-on qu'il soit ? A-t-on pu concilier l'image qu'on se faisait de l'autre et son image réelle ? Ces questions sont sûrement essentielles pour comprendre la transformation du désir sexuel et lui permettre de trouver ou retrouver une place au sein du couple. Finalement, nous sommes les principaux artisans de ce désir. Le contexte, la situation ou cet autre qui déboule dans notre univers ne pourrait rien exalter si nous n'étions pas disposés à nous laisser surprendre. Notre désir s'enflamme et semble nous échapper, mais c'est nous qui lui fournissons de quoi s'embraser. Nous fonctionnons un peu comme des chaudières à vapeur, nécessitant d'être sans cesse alimentés en combustible pour produire un feu qui ne s'éteint pas. La chimie de notre cerveau permet la transformation des combustibles en énergie, une énergie qui nous transporte, nous enthousiasme, une énergie si puissante qu'elle devient parfois incontrôlable. Si parmi ces combustibles on retrouve la nouveauté ou l'inattendu, rien ne serait possible sans notre propre capacité à rêver l'autre. Un peu de chimie et une séduction qui se renouvelle, voilà peut-être la recette du désir qui ne disparaît jamais. C'était Cécilia Como, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions.